ce matin, nous commençons le chapitre 7. Et nous allons passer les trois prochaines semaines à regarder ensemble le chapitre 7 de Romains. Nous allons lire les 6 premiers versets. Romains, chapitre 7, à partir du verset 1er. Ignorez-vous, frères, car je parle des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari.
Merci. Verset 3. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle s'est rappelée adultère. Mais si la mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'Esprit et non selon la lettre qui a vieilli. Dans ces 6 versets, j'aimerais ce matin regarder 5 points. D'abord, faire une petite introduction. Deuxièmement, regardez l'axiome. Un axiome, c'est une vérité évidente. Hier soir, ma petite-fille Jenny est venue me voir. Elle est en troisième année, c'est tout ça, chérie? Troisième année. Elle parlait des problèmes avec ses maths. Puis là, son grand-père est comptable, alors je suis aussi capable de l'aider dans ses maths. Malgré que les maths modernes, là, je vous dis que j'ai de misère avec. Mais elle me dit, pourquoi que 1 plus 1, ça fait 2? C'est un axiome, une vérité qui est évidente en soi-même. Paul commence avec un axiome. Il continue avec une analogie, troisième point. Puis il continue avec une application. Puis le verset 6 nous donne une affirmation, puis je suis tellement fier, j'ai 4 A que j'ai volé de Jean MacArthur. Commencez par l'introduction. J'ai trouvé l'histoire suivante qui, je pense, illustre bien les vérités que nous allons voir aujourd'hui, au moins en partie, qu'on va voir à travers le chapitre 7 de Romains. Il y avait un couple qui ne s'aimait pas vraiment beaucoup. C'était un mariage un peu forcé, puis l'homme a été très exigeant, au point qu'il a préparé une liste de règlements pour son épouse, par écrit. Puis il a insisté qu'elle lise tous les jours, et qu'elle les obéisse à la lettre. En passant, vous avez peut-être vu cette Pasteur Jones cette semaine qui voulait brûler le Coran. Juste au cas que vous soyez confus, là, il ne fait pas partie de notre gang, ça, là. Hein? C'est une secte, ça. Moi, j'ai pris le temps pour aller sur l'Internet, puis c'est disparu. Pour les 3 jours, c'est disparu. Mais les règlements pour leur église sont sur l'Internet. On doit prendre une douche 2 fois par jour. Pas une fois, pas 3 fois, 2 fois par jour. On n'a pas le droit d'aller dans les fêtes des membres de notre famille qui ne vont pas partir de l'église. Ça, là, quand vous voyez ça, c'est un signe d'une secte, ça. Quand on isole les personnes des autres, c'est une secte. Okay? Et les fréquentations et les mariages sont défendus. Ce gars-là était en Allemagne, on l'a mis dehors. Alors, juste pour que si vos voisins vous parlent de ce gars-là, vous lui dites, écoute bien, c'est un sexe, ce n'est pas nous autres. Puis c'est une liste de règlements-là, mais c'est ça. Hein? Alors ce bonhomme-là, il a préparé une liste de règlements pour sa femme qu'elle devait suivre. Puis, elle insistait qu'elle lise tous les jours. Parmi les choses, à quelle heure qu'elle devait se lever le matin, puis à quelle heure qu'elle devait servir son déjeuner, puis comment qu'elle devait faire les travaux dans la maison. Puis après quelques longues années, son mari est mort. Le temps a passé, puis la même madame a tombé d'amour avec un autre homme, qui l'aimait beaucoup, puis ils ont fini par se marier. Puis ce mari a tout fait ce qu'il pouvait pour rendre sa nouvelle épouse heureuse. Elle a continuellement donné des petits gestes d'amour, d'appréciation. Puis un jour, en faisant le ménage dans la maison, elle a trouvé la liste que son premier mari lui avait préparée. Puis elle l'a lue. Puis à sa grande surprise, elle a compris que même si son deuxième mari n'avait pas fait une telle liste, elle faisait quand même. Elle faisait parce qu'elle aimait son mari. Elle faisait par amour. Puis, elle faisait ce que son deuxième mari voulait, pas parce qu'il exigeait, mais parce qu'elle l'aimait. Elle l'aimait. Et peut-être que cela illustre plus que n'importe quoi que j'ai trouvé cette semaine, l'enseignement sur notre relation avec la loi comme chrétienne. Maintenant, dans Romains chapitre 6 et 7, Paul explique trois relations. D'abord, dans chapitre 6 et verset 1er, dans cette section que Trevor a enseignée pour nous, nous avons vu la relation entre le péché et la grâce. Et à partir du chapitre 6, le verset 15, nous avons vu la relation entre la loi et la grâce. Je ne sais pas si j'ouvre ça, si ça va marcher. Probablement que non. On verra. Et on va faire confiance que c'est là. Et aujourd'hui, on commence la section qui montre la relation entre la loi et le péché. Le voyez-vous sur le tableau, là? Péché, grâce, loi, péché. Alors, nous avons le péché, nous avons la grâce, nous avons la loi, puis nous avons ces trois relations-là qui sont expliquées dans Romains 6 et 7. Alors, c'est quoi la relation entre la loi et le péché? Entre la loi et le péché. Et dans le chapitre 7, et dans les trois prochaines semaines, nous allons répondre à certaines questions. D'abord, est-ce que la loi est bonne? J'ai une confession à vous faire. Je trouve que nous, les dispensationalistes, et j'en suis une, que des fois nous avons mis à côté la loi, et même il y en a qui disent que la loi n'a aucune place dans la vie du chrétien. Puis c'est une exagération. Puis on va essayer de voir dans les trois prochaines semaines la place de la loi dans la vie d'un croyant. On va regarder les questions. Pourquoi est-ce que je lutte encore le péché contre le péché? C'est une bonne question. Pourquoi est-ce que je lutte encore contre le péché? Je suis né de nouveau. Pourquoi je lutte contre le péché? Puis en passant, le chapitre 7 n'est qu'une introduction au chapitre 8. Alors c'est Michel et Trevor qui vont prendre le chapitre 8. Ils vont reprendre sur toutes ces questions-là. Mais on va au moins introduire cette question-là. C'est quoi la place de la loi dans la vie du chrétien? Puis est-ce que je peux avoir la victoire sur le péché dans ma vie? Voilà des questions qu'on va regarder dans le chapitre 7. Tout ça comme introduction. Alors, regardons l'axiome ici. Maintenant, comprenons bien ici, dans les trois premiers versets, que ces versets ne sont pas un enseignement exhaustif sur le mariage, le divorce et le remariage. Ici, l'apôtre Paul réfère au mariage, puis remariage, non pas pour faire un enseignement sur cette question-là, mais comme illustration d'une grande vérité qu'il veut enseigner. C'est pas, il y a des passages dans la Bible qui enseignent sur le divorce, le remariage, le mariage, n'est-ce pas? Matthieu en parle à deux endroits, Marc et Luc font référence. Paul explique l'enseignement du Seigneur dans Romains, dans 1 Corinthiens chapitre 7. Puis il fait une expansion sur cela. Puis il fait sous l'inspiration du Saint-Esprit aussi. Alors, ces questions-là sont traitées ailleurs. Alors, je n'ai pas l'intention de me retarder ce matin longtemps pour parler du divorce puis remariage. Ce n'est pas le point principal ici. n'est pas exhaustif ici. Il y en a qui lisent ce passage-là et disent « Jamais on peut se remarier. On ne peut pas rompre le mariage, jamais. » Il y en a qui ont cette position-là. Puis ils lisent Romains chapitre 7. Et chers amis, c'est un très mauvais usage des Écritures. Vous me suivez là? Ce n'est pas le sujet ici. Paul explique simplement davantage notre nouvelle relation avec la loi. En faisant référence à quelque chose qui est déjà bien connu et bien comprise, le mariage. Maintenant, comprenons certains points ici. D'abord, Paul fait référence à la loi et non pas la loi. Dans le verset premier, c'est écrit dans la Bible en français, « Je parle des gens qui connaissent la loi. » Il y a des personnes qui lisent cela et disent, « OK, Paul parle des Juifs ici. » Parce que c'est sûr que les Juifs connaissaient la loi. Acceptez que si nous avons l'article défini ici, puis je sais que vous êtes tous bons en français, hein? Alors un article défini, c'est la loi. Si en français, nous avons la loi, en grec, il n'y a pas d'article défini. C'est simplement marqué loi. Je connais des personnes qui connaissent loi. Maintenant, ça, on ne peut pas le faire en français. On le fait en grec. Quand on met la loi, c'est spécifique. C'est la loi, puis si c'était marqué la loi, je dirais c'est la loi de Moïse, mais il parle spécifiquement aux Juifs. Mais non, ici dans le passage, je connais des personnes qui connaissent, je parle des personnes qui connaissent loi. Puis certainement, si on comprend un peu la culture romaine, et même la culture grecque, mais surtout la culture romaine, puis Paul écrit aux chrétiens dans la ville de Rome, c'était des personnes qui connaissaient loi, les principes légaux. Okay? Et il y a des grands débats là-dessus. Je donne la position que je pense est générale acceptée, c'est que Paul ici parle à tous les chrétiens de Rome, puis il nous parle à nous aussi. Et donc, ce n'est pas vrai que Paul ici parle surtout aux Juifs dans l'église de Rome, il parle à toute l'église, puis il parle à nous. Mais on ne peut pas échapper à la vérité que la lien du mariage ici est rompu seulement par la mort. C'est ça que le passage ici dit. Maintenant, dans Matthieu 5, 32, notre Seigneur mentionne une exception. Il dit, sauf pour adultère ou infidélité, impudicité, c'est traduit différemment. Mais dans Matthieu 5, dans Matthieu 19 aussi, notre Seigneur utilise ce mot qui traduit adultère, c'est le mot porneia en grec. C'est un mot que vous connaissez. Quel mot que nous avons en français qui vient de ce mot-là? Pornographie, OK? C'est un mot très général. C'est un mot utilisé dans 1 Corinthiens 5 de cet homme qui, semble-t-il, avait des relations sexuelles avec sa belle-mère. Hein? C'est utilisé pour l'homosexualité. C'est utilisé à différentes formes d'immoralité. Et ceux qui voudraient dire que Matthieu 5 et Matthieu 19 réfèrent seulement au rite de virginité, de fiançailles dans la culture juive, je pense, font violence au texte. Le Seigneur est en train de dire que l'infidélité sexuelle est une des choses qui brise le mariage, c'est une exception. Le principe général, c'est que le mariage est pour la vie. Notre Seigneur dit que l'infidélité, l'impurité sexuelle de la part d'un des partenaires peut briser le mariage. Ne brise pas nécessairement le mariage. Le livre d'Osée nous donne l'exemple de pardon possible. Mais quand même, l'infidélité sexuelle de la part d'un des partenaires est une base pour briser le mariage et pour permettre le remariage. C'est l'enseignement de la parole de Dieu et c'est certainement l'enseignement dans l'Assemblée ici. Dans 1 Corinthiens 7, 14, Paul, inspiré par le Saint-Esprit, il donne une autre exception, l'abandonne. Quand un des partenaires abandonne l'autre, le premier partenaire a le droit de se remarier. Paul dit que les personnes ne sont pas liées dans ce cas-là. C'est le même mot qui est utilisé ici dans verset 2. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi. C'est le même mot que Paul utilise dans 1 Corinthiens 7, n'est pas liée dans ce cas-là. Alors, ces deux exceptions-là sont données dans la parole de Dieu qui sont claires. Moi, je ne crois pas aussi qu'une femme qui est battue par un homme, qui vit avec un homme qui est continuellement violent avec ses enfants et prie pour vivre avec cet homme-là. Puis je ne crois pas que les hommes battus pour leurs femmes doivent nécessairement toujours rester avec leurs femmes. Ça a l'air que ça existe encore aujourd'hui. Ça n'existait pas autrefois. Vous me suivez là. Okay? Alors, je donne les lignes générales ici, vu que ça la mentionne ici. Maintenant, donc dans ces trois versets, le point est clair. La mort libère d'une obligation légale. Vous savez, c'est qui Lee Harvey Oswald? C'est qui ça? Qu'est-ce qu'il a fait, lui? C'est lui qui a tué Kennedy. Eh oui. Est-ce qu'il a subi un long emprisonnement pour cela? Est-ce qu'il a eu la peine de mort? Pourquoi pas? Quelqu'un l'a tué vite. Bon, alors nos amis américains aiment beaucoup les conspirations, puis ça a l'air que ce n'est pas lui qui a tué Kennedy, puis une sorte d'histoire, là, si vous lisez un peu. Mais il reste que cet homme-là a échappé à la peine parce qu'il est mort, n'est-ce pas? Quand on meurt, on échappe aux conséquences de la loi. Notre frère Normand Bédard nous en a parlé la semaine passée, ou les deux semaines à la table du Seigneur. Chez nos amis humanistes, ils diraient même qu'il Oswald a échappé à toute peine. Excepté, je vous dirais que peut-être quand il a rencontré Dieu, il n'a pas tout échappé. Peut-être qu'il y a eu des félicitations, je ne sais pas. Mais je ne suis pas un admirateur de Kennedy. Mais, excuse la farce plate. Mais, vous le comprenez, là, c'est que la mort dégage des liens de la loi. Ça, c'est le point ici. C'est que le mariage nous lie avec notre partenaire. On n'est pas libre pour être uni avec un autre. Mais lorsque notre partenaire est mort, on n'est plus lié, on a le droit de se marier. N'est-ce pas que c'est clair, ça? C'est ça le point que Paul fait dans Romains chapitre 7. Mais plus que cela, mais là, j'aimerais ça que vous pensiez avec moi parce que c'est profond, cela. La mort nous libère pour permettre une relation avec un autre. La mort nous permet d'engager une obligation vers un autre, mais plus que cela. Ce qui est surprenant de ce passage, ce n'est pas notre mort qui nous libère de notre obligation légale, c'est la mort d'un autre. J'ai parlé de Lee Harvey Oswald. C'est sa mort qui l'a libéré des conséquences de sa geste qu'il avait posée, n'est-ce pas? Mais dans l'illustration de Paul, ce qui est surprenant, c'est que ce n'est pas la mort de la femme qui l'a libéré, c'est la mort de son mari. La mort d'une tierce personne l'a libéré pour qu'elle puisse se marier avec un autre, n'est-ce pas? Hein? Et dans le passage qui est ici, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas notre mort qui a rompu notre relation avec la loi. C'est la mort de qui? Vous voyez-vous l'argument? Comme la mort d'une tierce personne a permis que cette femme, dans l'illustration, soit liée à une autre personne, la mort de Christ nous a libérés de la loi, non pas notre mort, dans un sens, on est identifié avec Christ dans sa mort, mais dans un sens, c'est la mort de Christ qui a rompu notre relation avec la loi. Alors ça, c'est l'axiome ici. Maintenant, allons à l'allégorie. Dans le verset 4a. Comme la mort de notre épouse nous libère pour permettre une autre relation, la mort de Christ, puis notre identification avec sa mort, nous libère pour permettre une autre relation. Plutôt que d'être esclave de ce mari, ce premier mari qui était méchant, et sous la seigneurie et l'esclavage du péché, nous sommes libres seulement à l'intérieur d'une quelconque seigneurie, le péché ou le Christ. J'ai écrit ceci, nous sommes libres, joyeusement libres pour être sous la seigneurie de Jésus-Christ. Je suis sur le cliché 17, mon ami, puis je pense que je t'ai perdu. J'ai tout sauté une page. Oui, j'ai sauté une page. Bon. Merci, Yannick. Tu viens de prêcher ma place. C'est une bonne chose qu'il ne m'a pas suivi, parce que j'allais manquer le point principal dans le passage. Remarquez bien, nous ne sommes pas libérés simplement pour être nos propres maîtres. Nous sommes libérés pour appartenir à un autre et pour servir un autre. Non. On a cette cantique que je n'aime pas. Jésus m'a donné la liberté. Bon, c'est beau. Mais je trouve donc c'est abusé. C'est donc abusé. Jésus m'a donné la liberté. Moi, j'ai découvert dans ma vie, à travers les années, que des personnes qui sont obsédées par la liberté sont souvent esclaves de quelque chose. J'ai écrit ceci. Il n'est pas donné à l'humanité d'être libre. C'est qui ce chanteur? J'oublie son nom. Il chante comme ça un peu, là, puis il est devenu chrétien pendant, quand j'avais à peu près 25-30 ans, il est devenu chrétien quelques mois, là. Non, pas Johnny Cash. Lui est au ciel, Johnny Cash. Bob Dylan. Lui, pendant le temps qu'il était chrétien, il a fait une chanson, Slow Train Coming, une chanson pas vite qui arrive. Puis le dernier, il dit, il faut servir quelqu'un, il faut servir le diable ou bien il faut servir Dieu. Il avait raison. Puis vous ne pouvez pas être libre. Nous ne sommes pas des personnes qui peuvent être 100% libres. Ce n'est pas ça l'être humain. Nous allons servir quelqu'un. Mais lorsque nous sommes donnés à Christ, nous avons décidé de changer d'allégeance. Puis notre choix, ce n'est pas entre liberté et l'esclavage, mais notre choix, c'est quel maître nous allons servir. Parce que remarquez bien ici, dans l'illustration, dans l'axiome qui a été donné, cette femme est libérée, mais elle se marie avec un autre. Et dans le passage qui est ici, c'est que nous sommes libérés de la loi pour pouvoir, au lieu d'être asservis à la loi, nous sommes asservis au Christ. Puis je connais un paquet de chrétiennes qui disent, « Oh, mais mettez-moi pas sous la loi, puis dites-moi pas comment vivre, mais moi je suis libre, puis je peux faire ce que je veux, puis je peux faire ci, puis je peux faire ça. » Non. Non, parce qu'on n'est pas maître de nous-mêmes. On n'est pas maître de nous-mêmes. Bon, j'arrive à mon page 17 encore. Plutôt que d'être esclave sous la seigneurie et l'esclavage du péché, nous sommes libres seulement à l'intérieur d'une quelconque seigneurie, le péché ou le Christ. Et là, nous sommes libres, mais joyeusement libres pour être sous la seigneurie de Jésus-Christ. Chers amis, cette illustration, cette histoire dont j'ai parlé en premier, on a cette femme qui est misérable avec un mari qui n'a pas d'allure. Et nous avons cette femme qui est dans une nouvelle relation, elle est heureuse. Puis, vous avez le choix, vous. Vous allez être sous l'esclavage du péché, puis vous allez être misérable. Puis, vous êtes misérable, puis pendant l'éternité, vous allez être misérable aux peines éternelles. Puis, dans la vie, vous allez être esclave. Moi, j'ai un frère, il s'appelle Rod. Mon frère Rod. Quand je suis allé à Vancouver cet été, là, je pense que je l'ai vu 4-5 fois depuis 1964. C'est longtemps, ça. L'as-tu vu 4 ou 5 fois, mon frère? C'est un libre penseur. Ça, c'est un gars qui a vécu dans une caverne dans les Rocheuses pour pousser du pot. Je l'ai appelé quand j'étais à Vancouver, à Chilliwack, dans le bout de Vancouver cet été, là, puis j'ai essayé de le trouver, puis mon autre frère, un de mes autres frères m'a dit, « C'est un chanceux de le trouver, il se cache. Ses nombreuses femmes le cherchent, ses nombreux enfants le cherchent, tout le monde veut avoir de l'argent, il doit de l'argent partout, les policiers dans 5 villes le cherchent, les policiers provinciaux le cherchent, la gendarmerie royale le cherche, les Américains le cherchent, tu ne le trouveras pas, il se cache. » Mais j'ai su qu'il travaillait dans tel garage. Je l'ai appelé au garage, puis quelqu'un a répondu, puis je savais que c'était lui, hein. Moi, J'ai 6 frères, une demeure, mais mes 5 autres frères, ils ont toutes une voix comme moi. Puis je connais sa voix. Il a répondu, puis j'ai dit, je veux parler avec Rod Vergent. Ah, mais il n'est pas là, là, il n'est pas là, il n'est pas là. Il est parti à la banque, là. Il va revenir dans un couple d'heures. Appelle dans un couple d'heures. Bon, je savais que c'était mon frère. Je sais comment il est. J'ai rappelé. Oh, il n'est pas encore arrivé. J'ai appelé 5 fois. Ma femme était là, chérie, tu te souviens? J'ai appelé, pense la 5e fois. J'ai dit, là, Rod, je sais que c'est toi, là. Je veux te parler, je veux te rencontrer. Ah, oh, je ne suis pas Rod, il n'est pas là. Je sais qu'il était là, je suis ton frère. Mais prouve-moi que tu es ton frère, mon frère, là. C'est quoi ton deuxième nom? Puis, tu es né en quelle année? Puis, où est-ce qu'on a vécu? Tu sais, il a fait des tests. Puis, quand il dit, OK, je vais aller souper avec toi. C'est drôle, mais c'est triste. C'est triste. C'est un grand homme. C'est plus grand dans notre famille, là. Il est rendu plus petit que moi, là. Il est plus jeune que vous, de moi, beaucoup. Si tu veux voir quelqu'un qui est magané par le prêcher, c'est bien mon frère. Magané. Moi, j'avais peur qu'il meure assis à la table avec nous autres. Mon frère, qui a pris soin de lui des années, il a dit, j'ai réussi à souterrer quelques sous à chaque semaine. Il a vécu avec un de mes frères, puis il a fini par la mettre dehors parce qu'il voulait vendre la drogue à ses enfants et ses petits-enfants. Il a dit, j'ai mis 3000 piastres dans la banque pour l'enterrer. C'est la seule chose que je suis capable de faire pour ce gars-là. C'est triste, ça, là. C'est triste. J'avais peur qu'il meure à la table avec nous autres. C'est vrai, chérie, c'est terrible, triste, triste, triste. C'est ça que ça fait, le péché. Puis, il est esclave. J'essaie de lui parler de Dieu. L'eau sur le dos d'une canarde. Et moi, je ne suis pas parfait, mais je suis libre. Joyeusement libre dans Jésus-Christ. Vous avez le choix de qui vous allez servir. Deux illustrations. C'est un homme qui est libéré de prison. Il est libre. Moi, j'ai toute une famille. Là. J'ai rencontré des membres de ma famille là, cet été. Là. Quand mes jeunes étaient petits, j'ai décidé de ne pas aller trop souvent dans ma famille. C'est pas pour rien. Puis je pense que mon neveu, qui vient d'être lâché de prison, il est en prison depuis qu'il a 15 ans. Il n'a pas passé 2 ans de sa vie, il y a 40 quelques années maintenant, Daryl. Entre l'âge de 15 et 40, je pense qu'il a passé à peine 2 ans qu'il n'a pas été en prison. Puis, libéré de prison. Il est libre. Il me dit ceci, je pense qu'il va mieux. J'espère qu'il va mieux. Il dit, j'ai compris que je suis libre du prison, mais j'ai encore des contraintes. S'il a compris cela, s'il a compris cela. Un gars qui est libéré de prison, il n'est plus en prison, là, hein? Mais il a des contraintes. Il ne peut pas voler, il ne peut pas battre les autres, il ne peut pas vendre la drogue. S'il fait ça, qu'est-ce qui va arriver? Il va retourner en prison, n'est-ce pas? Hein? Il va retourner en prison. Un homme libéré de prison est libre, mais il a des contraintes. On va laisser faire l'autre illustration. Se pensant libre de toute contrainte et de toute seigneurie, il tombe facilement encore sur la seigneurie du péché. C'est des chrétiennes comme cela. C'est qu'on est libre. Personne ne peut me dire quoi faire. Je suis libre. Paul dit non, non, non. On est libéré de la loi dans un seul but. Christ nous a libérés de la loi pour que nous puissions le servir lui. Vous me suivez? Pour qu'on puisse servir nous-mêmes. Puis c'est facile de retomber dans ses anciennes habitudes et de finir encore en prison. Ça, c'est l'analogie. L'application. Je vais lire le verset 4. Verset 5. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant. Alors, il y a 4 choses qui caractérisaient l'ancienne vie ici. Il y avait la chair. La chair, ce n'est pas ça. Ce matin, là, il a fallu que je détache ma ceinture d'une coche. C'est comme si la ceinture avait rétréci avec l'âge. Mais effectivement, j'ai mis de la chair. Je parlais avec mon médecin l'autre jour, puis... J'ai dit, les pelures que tu m'as données me font engraisser. Puis, elle m'a regardé. Bon. C'est pas de cette chair-là que ça parle. Mais c'était notre vie avant de connaître Jésus-Christ. C'était une façon, le mot chair est utilisé de différentes façons dans la Bible. Mais le mot chair ici, c'est pas notre corps. C'est notre manière de vivre avant de connaître Jésus-Christ. Puis après ça, ça parle des passions, des péchés. Michel Pernault a une façon excellente d'expliquer le mot passion. Le mot passion, ça vient du mot latin qui veut dire souffrir. Puis passion, ça veut dire que si on ne fait pas quelque chose, on souffre. Vous avez connu quelqu'un qui était habitué à la drogue, qui n'est pas capable d'arrêter? Moi, je connais des personnes qui ne peuvent pas passer 3 heures sans prendre une bière. N'est-ce pas? Vous êtes rendu là, vous êtes alcoolique. Un alcoolique n'est pas quelqu'un qui est ivre tout le temps et qui fait des choses stupides tout le temps, là, ça aussi. Hein? Mais si vous n'êtes pas capable de passer 3 ou 4 heures sans prendre une bière, vous êtes alcoolique. Puis moi, j'en connais comme ça. Hein? Habitué. Si on n'a pas quelque chose, on souffre. Si on ne prend pas de la drogue, la hache, ou je ne sais pas quoi, l'héroïne, on souffre énormément, puis ça nous pousse à le prendre encore, même si on sait que ça va nous détruire. Puis c'est ça le sens de ce mot-là. Passion. Passion des péchés. C'est ça qui nous caractérisait. On faisait des choses en sachant que ça allait nous détruire. Moi, je sais que dans ma propre vie, que j'ai une passion pour la cassonade. Ma femme le cache dans la maison. Mon déjeuner préféré, c'est 2 pouces de griot puis 5 pouces de cassonade. Hein? Puis un petit peu de lait pour le fondre. Puis moi, je sais que si je fais ça, je vais être malade toute la journée. Je vais être étourdi, je vais être endormi, je vais avoir mal au cœur, je vais avoir le diarrhée. Mais des fois, je le fais quand même. OK? Mais c'est vrai. C'est stupide. Puis combien de fois c'est qu'on voit des gens qui sont pris dans le péché, passion des péchés. Puis c'est intéressant ici, ça nous dit que c'est provoqué par la loi. Puis Paul ici fait qu'est-ce qu'il toujours fait un bon pédagogue, il introduit une pensée, il introduit une espèce de notion ici, une idée ici, qu'il va expliquer un peu plus tard. Intéressant ici, c'est que ces passions du péché sont même provoquées par la loi. On la mentionne en passant. Dans les prochaines 2 semaines, on va essayer d'expliquer un petit peu plus cela. Puis ça nous dit que ça produisait des fruits pour la mort. Oh, c'est-tu triste, ça? Toute cette vie-là produisait des fruits pour la mort. C'est ça notre ancienne vie, c'est cela. Ça produit la mort. Quand Adam a péché la première fois, la mort est devenue le sort de tout être humain et nous allons mourir physiquement. Et le péché nous fait mourir spirituellement et émotionnellement. Et pendant l'éternité, si nous n'avons pas reçu Christ, nous allons passer l'éternité dans la mort éternelle, les peines éternelles. C'est ça le résultat du péché. C'est ça que nous caractérisons. Puis oh que j'aime le verset 6. J'aime les versets dans la Bible qui commencent avec le mot « mais ». Puis encore plus les versets qui commencent avec « mais, maintenant ». Vous voulez faire un bon exercice, vous trouvez ça plate, lire la Bible, mais lisez le Nouveau Testament avec un stylo, puis encerclez à tous les fois que vous voyez le mot « mais », puis regardez la différence. « Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi. » Hein? Nous avons été dégagés. Maintenant, nous devons porter du fruit pour Dieu. Alors, au lieu de porter du fruit pour la mort, on porte du fruit pour Dieu. Nous avons été rachetés pour produire la sainteté. Nous avons été délivrés de la loi pour être unis à Christ et nous sommes unis à Christ pour produire du fruit pour Dieu. C'est Charles Hodge, le grand théologien, qui dit ça au début du 19e siècle, 20e siècle. Avez-vous compris cela? Vous n'avez pas été sauvés pour avoir une assurance feu, pour vous empêcher de bouler aux peines éternelles. Vous avez été sauvé pour produire la sainteté dans votre vie. J'ai été sauvé, moi, parce que Dieu veut que je sois saint. Dieu veut produire du fruit dans moi. Puis lisez Galates 5, et envers le sort de fruit qu'on doit produire, une fruit intérieure dans notre vie qui produit des résultats extérieurs dans nos relations avec les autres. C'est ça que Dieu veut. C'est pour ça qu'il nous a sauvés. Il ne nous a pas sauvés pour qu'on soit libre pour vivre n'importe comment. Il nous a sauvés pour produire des fruits pour lui, au lieu de produire des fruits pour la mort. Il nous a libérés de la loi pour produire du fruit pour lui. Maintenant, on termine avec l'affirmation. Il y a entre le verset 6 un contraste entre la lettre de la loi et le régime nouveau de l'esprit. C'est le contraste qui est là. Maintenant, attention ici. Cette idée sert à développer plus au chapitre 8. Mais ça ne veut pas dire ici qu'on ne doit plus obéir aux commandements de Dieu. Moi, je le comprends comme ceci, cette idée de la lettre de la loi. Jésus a dit dans Matthieu 5, c'est écrit, vous avez entendu que c'est écrit qu'il ne faut pas commettre l'adultère. Mais moi, je vous dis que si vous regardez une femme pour la convoitir, vous avez déjà commis l'adultère dans votre cœur. La lettre de la loi, c'est ceci. Je ne dois pas faire l'acte physique d'adultère avec une autre femme que la femme avec laquelle je suis marié. Dieu réserve la sexualité à l'intérieur du mariage. Ça, c'est la lettre de la loi. Jésus va au-delà de là, de ça. Puis il nous dit que si on regarde une femme, puis on nourrit dans nos pensées des idées de convoitise, d'adultère, de posséder une autre femme que la nôtre, ça c'est déjà le péché, n'est-ce pas? Ça c'est la différence entre la lettre de la loi et l'esprit de la loi. Maintenant, est-ce que je dois dire que moi, je peux commettre l'adultère avec une femme parce que je ne suis plus lié à la lettre de la loi, pourvu que je ne regarde pas les femmes pour les convoitir? Est-ce que c'est logique, ça? Est-ce que c'est logique? Pas du tout. Attention, cela. Il y a un mépris de la loi dans nos milieux, des fois, qui m'inquiète. Ce qui a changé avec la nouvelle naissance, et lorsqu'on parle ici de la nouvelle régime de l'esprit, de quoi qu'on parle? Ce qui a changé, c'est la présence du Saint-Esprit qui habite en nous. Et le Saint-Esprit qui habite en nous, qui vit en nous, il nous donne la puissance pour vaincre le péché. Et c'est voilà l'accomplissement de ce qu'Ézéchiel a dit puis Jérémie a dit. Oh, ces deux grands prophètes qui voyaient arriver dans le cas de Jérémie, qui expérimentaient dans le cas d'Ézéchiel l'exil, où Dieu punissait son peuple pour leur péché, d'idolâtrie. Ces deux grands prophètes qui étaient tourmentés pour le fait que le peuple de Dieu n'avait jamais obéi à la loi. Dieu avait choisi son peuple, il les avait sortis d'Égypte, il les avait rachetés. Ils avaient expérimenté toute la bonté de Dieu, puis malgré cela, ils avaient désobéi, puis Dieu les punit. Mais Dieu leur fait une promesse, le jour arrivera où j'écrirai ma loi dans leur cœur, puis je mettrai mon esprit dans leur cœur. Puis ça, ces amis-là, mes amis, ce jour est arrivé. Puis c'est arrivé pour nous. Puis le Saint-Esprit habite en nous. Puis cette concept dans la fin du verset 6, sous le régime nouveau de l'Esprit, puis encore une fois, chapitre 8 va développer ça, c'est merveilleux. J'ai hâte qu'on regarde ça ensemble de nouveau. C'est ça, c'est que le Saint-Esprit habite en nous, puis on peut accomplir tout cela. Remarquez bien dans le verset 6, les détails ici qui sont importants. D'abord, le mot « servir » ici, vous l'avez vu, verset 6, vous l'avez vu? Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'Esprit. Et il y a une hésitation chez les traducteurs de traduire comme faux ce mot « doulas » dans l'original, c'est le mot « doulas ». Vous comprenez que dans la langue grecque, il y a différents mots pour servir. Le mot « doulas » était le mot le plus bas, ça veut dire l'esclave. L'esclavage, celui qui appartenait à son maître, celui qui ne pouvait pas décider de changer de job, celui qui ne recevait pas de salaire, même pas la nourriture si son maître ne voulait pas. Il était esclave de son maître. Nous savons ce que ça veut dire. On a assez vu des films pour voir cela. Comme les enfants d'Israël étaient esclaves en Égypte. Mais nous, le passage nous dit ici que nous sommes maintenant esclaves de Jésus-Christ. C'est le même mot. Puis on n'aime pas ça des fois. Puis remarquez bien le verset 6. Nous allons servir Christ. Ce n'est pas une certitude, ce n'est même pas une option ici. Si nous sommes vraiment nés de nouveau, nous allons servir le Christ. Puis si nous passons notre vie en se disant qu'on est chrétien sans servir le Christ, mes chers amis, il y a un problème et peut-être qu'on n'est pas vraiment né de nouveau. Hein? Puis moi, j'aimerais ça vous poser une question. Parce que là, je vais être précis ici. Oui, je saute le troisième point, le temps passe rapidement. Quelle sorte de fruit vous portez? Quelle sorte de fruit vous portez? Quelle sorte de fruit je porte moi? Je me suis permis de poser cette question-là depuis quelques mois en lisant ce passage. Puis je me demande si je suis en train d'abuser ma libération de la loi et je suis en train de tomber dans des pratiques et des habitudes indignes de votre maître. De mon maître. Et vous? Soyons honnêtes là. Avez-vous pris votre libération de la loi au point que vous avez des habitudes dans votre vie qui sont en dessous aux yeux de Dieu, indignes de notre maître? Puis je vais aller très loin, je vais être très direct ce matin. Est-ce que vous traînez dans les endroits où vous ne pouvez pas porter fruit pour votre maître et Seigneur? Le Seigneur vous a sauvé, il vous a délivré de la loi, il vous a délivré de la peine de la loi, de la pénalité de la loi qui est pesée sur vous et sur moi, il nous a délivré de cela pour qu'on porte du fruit pour lui. Je vais parler d'un cas bien spécifique. C'est Bar. Puis moi, je vais ouvrir mon cœur ce matin. Ça ne m'arrive pas souvent d'être direct comme ça, mais je vais être direct ce matin. Savez-vous que je considère sérieusement abandonner de célébrer des mariages parce que j'ai honte de voir les chrétiennes qui se tiennent au bar dans les réceptions? Je suis tanné. Vous savez que je ne prends jamais l'alcool, moi. Je viens d'une famille d'alcooliques. Puis je sais qu'on est libre pour prendre un verre de vin puis pour prendre une bière. Je n'ai pas de problème avec cela. Mes chers amis, on n'a pas compris la différence en prendre un verre de vin ou une bière en mangeant, ou que c'est un aliment, puis aller se tenir dans un bar, puis on prend deux, puis trois, puis quatre, puis six consommations. On n'a pas compris cette différence-là. Certains vont dire, « Bon, on va chez Saint-Hubert. Moi, j'aime ça aller à Saint-Hubert. » J'aime ça aller à Saint-Hubert, c'est bon, le poulet est bon. Je parlais avec Gilles Despins cette semaine, il est arrivé de l'Afrique. En descendant de l'aéroport Montréal, il est arrêté à Saint-Hubert, à Berthier. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas mangé un petit coq. Hein? Chers amis, boire un verre de vin à Saint-Hubert, en mangeant du poulet ou même une poutine, ce n'est pas la même chose que se tenir dans un bar. Un bar, c'est un endroit où on veut qu'on boit encore, encore, encore. Un bar est là pour vous vendre la boisson. C'est quoi un bar? Un bar est un endroit où on va courir les femmes des autres et les maris des autres. Est-ce que je peux le dire directement? C'est ça, un bar. Puis je ne suis pas un fou, moi, là. J'ai peut-être 63 ans, mais j'ai déjà été jeune. Puis voulez-vous vous souvenir, j'ai déjà été matelot, moi. J'en ai vu des bars dans ma vie. Puis j'ai côtoyé des gens qui courent les bars. Et vous pensez que vous êtes libre, puis vous êtes libre de la loi. Puis il n'y a pas de loi dans votre vie. Mais quelle sorte de témoignage avez-vous pour le Seigneur? Moi, j'écoute les nouvelles à la radio, à la télévision. Je les regarde sur l'Internet. J'essaie de lire un journal ou deux à tous les jours. Puis il y a du monde qui se font tuer à tous les jours quasiment à Montréal. Moi, une année, j'ai fait les statistiques. Est-ce que vous savez que la majorité des personnes qui se font tuer à Montréal, c'est soit dans une situation familiale ou c'est soit autour d'un bar? Savez-vous ça? C'est ça. Regardez, lisez le journal. Lisez donc le journal. Chers amis, je vais le dire directement. D'abord, si vous pesez moins que 180 livres, si vous prenez plus qu'une consommation, vous avez déjà dépassé la limite et vous pouvez être arrêté pour l'ivresse au volant et perdre votre permis de conduire. Est-ce que vous m'avez suivi? Nous avons tous des taux de métabolisme différents des autres. Mais pour la majorité des personnes qui sont ici ce matin, une consommation, vous êtes pas mal sur la limite. 0.08, c'est ça? Hein? En passant, partout le reste au Canada, c'est 0.05. Puis ça s'en vient au Québec, ça, un jour. Hein? Attention! Et moi, je vois dans des mariages, puis après le mariage, je vois des bonnes chrétiennes qui vont ici sur la plateforme pour nous conduire dans louange du Seigneur, un après l'autre. On est libre! Non, vous n'êtes pas libre. Vous êtes libre pour porter du fruit pour Jésus-Christ, vous n'êtes pas libre pour porter du fruit selon votre ancienne vie. Moi, j'ai des choses à corriger dans ma vie. J'ai crié au Seigneur depuis quelques mois. J'ai pleuré hier dans la nuit. Seigneur, nettoie-moi, j'ai des choses à régler. Pour certaines personnes ici aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on abuse de notre liberté au point d'être des mauvais témoignages puis des mauvais exemples, puis on va dans des places où ce n'est pas notre place. Puis attention, l'alcool, c'est un serpent qui mord. Et si vous avez la liberté de boire un verre de vin ou une bouteille de bière, rappelez-vous que le faire en mangeant, c'est très différent que c'est de s'asseoir puis prendre une bière après l'eau. Puis dans un endroit où on n'a fait que ça, servir de la bière puis de la boisson, ce n'est pas une bonne place. Puis un jour, il va falloir peut-être qu'on soit un peu moins tolérant sur cela. Moi, ça m'inquiète beaucoup. Moi, j'ai honte. Cette semaine, je me suis fait dire par des responsables de deux autres églises dans la région que nos jeunes ont la réputation d'être une gang de coureurs de bar. J'ai eu honte. J'ai honte. Excuse-moi de le dire, mais j'ai honte. Peut-être que vous avez du ménage à faire dans votre vie. Vous avez des priorités à changer. J'ai probablement assez dit. Nous allons terminer par la prière. Ah, Seigneur, nous étions sous la loi. Cette loi qui est bon, cette loi qui est un reflet de l'excellence de ta caractère. De qui tu es. C'est loi qui nous révèle ta pureté, ta sainteté. Mais ô Seigneur, on est tellement pécheurs que ta loi pesait sur nous. Celui qui ne fait pas ces choses-là mourra. Et nous étions sous la sentence de la mort, incapables de suivre ta loi. Mais tu nous as libérés. Libérés des conséquences de la loi. Libérés de l'obligation de suivre les détails de cette loi-là. Et tu nous as libérés pour qu'on soit dans la joyeuse servitude de ton Fils Jésus. Parce qu'on n'est pas capable d'être libre, Seigneur. Quand on est libre, on ne fait que tomber dans nos anciennes habitudes. Oh, nous te disons ce matin, nous voulons te servir. Nous sommes heureux dans ton service. Oh, Seigneur, donne-nous l'équilibre dans notre vie. On connaît des personnes qui sont tellement légalistes qu'ils détruisent leur joie et leur vie chrétienne. Nous ne voulons pas tomber dans le légalisme. Et nous ne voulons pas non plus tomber dans le libertisme où nous permettons des pratiques et des habitudes dans nos vies qui te déplaisent. Ah Seigneur, donne-nous cet équilibre dans notre vie. Purifie-nous. Seigneur, fais en sorte qu'on te vit uniquement. Que ce soit évident à tous ceux qui nous connaissent qu'on vit pour porter du fruit. Pour toi, Seigneur. On a emporté des fruits autrefois dont on a honte. Aide-nous à porter des fruits qui vont durer jusque dans l'éternité. Aide-nous à obéir, Seigneur. Nous demandons au nom de Jésus.